Chapitre 34. Pour l'anniversaire d'Antonin, Théo et Vanessa nous ont invités chez eux. Assise face à mon père et à Viviane, j'ai pu noter que, bien que n'étant pas, eux, de jeunes mariés, ils ont été tentés à plusieurs reprises de se prendre la main, mais se sont finalement abstenus. Si c'est parce que nous aurions été témoins de ce geste de tendresse, c'est dommage. Mon père est ému. Par trois fois, il a répété que cela faisait plus de 9 ans que ses enfants n'avaient pas été réunis autour de lui à une même table. On discute de tout et de rien, on prend des nouvelles. Un peu plus en détail parce qu'on a davantage de temps. Vanessa s'est donné du mal pour préparer le repas. Je suis vraiment heureuse d'être là, mais je reste quand même un peu spectatrice de ce moment particulier. Un pied dedans, un pied dehors. Que me vaut l'honneur d'être ici? À quoi tiennent les liens privilégiés que j'entretiens avec ceux qui sont présents à cette table? L'appartenance à un clan? Un patrimoine génétique identique? Une histoire commune? Notre proximité s'explique-t-elle par tout ce qu'ils ont accompli pour moi ou que j'aurais fait pour eux? Ces questions méritent d'être posées. Voilà seulement quelques mois, mes proches étaient de parfaits inconnus. J'étais incapable de les reconnaître. Des étrangers. Pourtant, ils sont mes frères, mon père, ma belle-sœur et ma belle-mère. Que recouvrent ces noms parfois barbares qui forment une famille? Théo, Antonin et moi avons grandi ensemble, sous le même toit, souvent dans les mêmes chambres. Nous avons partagé les fêtes, les vacances, les paquets de bonbons et les microbes. Nous avons été les témoins réciproques de nos premiers pas dans la vie. Eux s'en souviennent très bien. Moi, je n'ai récemment récupéré que quelques bribes de ces années communes. Mon père, quant à lui, s'est chargé de nous nourrir, de nous protéger. Il nous a logés, vêtus et envoyés à l'école. Il nous a aussi souvent fait part de ses convictions et de sa vision de la vie. Par un curieux hasard, il avait toujours envie de nous parler sérieusement au moment où le feuilleton que nous attendions comme des fous allait commencer à la télé. Même si je ne me souviens pas précisément de ses propos, j'en garde une impression forte et je sais qu'ils ont influencé ma personnalité. J'ai toujours perçu mon père comme bienveillant, raisonnable, mais aussi rempli de failles ou de fissures. C'est sans doute pour cela que l'on dit que certaines personnes sont fêlées. Avec le recul, je m'aperçois que j'ai toujours connu mon père à deux doigts de tomber en morceaux. Finalement, je connais Vanessa et Viviane de façon plus complète et cohérente. Paradoxalement, parce que notre histoire est récente, je dispose en mémoire de tout ce que je sais d'elle. J'entretiens avec chacun une histoire unique. Tous contribuent à faire de moi ce que je suis. Parce que mon père m'a donné la vie et son nom, parce que mes frères sont les premiers êtres et accessoirement les premiers hommes que j'ai côtoyés. Quelle étrange sensation de me savoir officiellement si proche, alors que parfois, je doute encore de ma légitimité parmi eux. J'ai souvent l'impression d'être une usurpatrice, de ne pas mériter la place que l'on m'accorde. Qui suis-je pour que l'on me demande mon avis au travail ? Au nom de quoi suis-je supposée faire partie des différents groupes auxquels j'appartiens? Pourquoi me prend-on au sérieux? À quoi tient notre position? Je pourrais très bien me retrouver à ce même genre de table pour célébrer autre chose avec d'autres gens. Des anniversaires, il y en a des milliers tous les jours, et des gens, on en trouve partout. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on sait que l'on est exactement là où l'on doit être? À quel moment se dit-on que personne ne pourrait se substituer au peu que l'on est, avec probablement plus de talent? Les questions se bousculent dans ma tête. Est-il normal de douter ainsi de tout, même de soi-même? Qui nous donne confiance et nous aide à résoudre ces questions existentielles? Est-ce un chemin que nous faisons tous étant jeunes, et que je recommence parce que ma perte de mémoire m'a renvoyée à mes débuts. Malgré l'intimité qui nous lie, nous n'avons abordé que des sujets anodins. La météo, l'état de la tante Aliénor qui se dégrade, impossible de me souvenir d'elle. On parle projet de vacances, problème de voiture ou de chaudière. Ils ont même fait un quart d'heure sur les produits chimiques dans les fibres des tissus qui provoquent des irritations cutanées. Maintenant, je vais aussi me méfier de ça, en plus du reste. Au moment de changer les assiettes pour le dessert, Antonin s'est spontanément levé pour aider. Je l'ai imité. Je suis fascinée par le cérémonial que représentent les repas dans notre mode de vie. Je l'avais constaté au mariage, mais il n'y a pas besoin de grande occasion pour que le phénomène se manifeste. Même avec les copines du service social, lors de notre traditionnel déjeuner du premier lundi du mois, ou même ici, manger constitue chaque fois toute une affaire. Prendre l'apéritif sur le sofa en dégustant des canapés, à moins que ce ne soit l'inverse. S'asseoir sur la bonne chaise, déterminé par tout un protocole, souvent non dit. Ne pas mettre les mains sous la table. Ne pas poser les coudes dessus. Ne pas chanter. Ne pas verser d'eau dans le verre à vin. Vin qui ira avec tel plat et pas avec tel autre. Le couteau à droite. Ne pas se servir la première, à moins d'être la plus âgée. Ne pas prendre la dernière part, à moins d'être le chien. Mais plus important que tout, le sacro-saint principe gravé en lettres d'or au-dessus de la totalité des autres, dire que c'est bon, même quand ça vous révulse les papilles et vous détraque l'estomac. N'en faites pas trop cependant, sinon on vous invitera à en reprendre. J'ai vu Lucie se faire avoir. Le lendemain, elle avait des boutons que je ne croyais possible que sur des farfadets dans les contes de fées. Tous ces principes, qui ont dû s'empiler les uns sur les autres au fil des siècles, me fatiguent. J'avoue que parfois, même si je déteste la solitude, je préfère manger seule. Ce que j'aime, dans l'ordre qui me plaît, avec les doigts. Tellement plus facile. Vanessa a confectionné une tarte aux pommes. Simple, mais très appétissante. Rien à voir avec les gâteaux d'anniversaire délirants que l'on peut voir dans les films. J'en ai vu dans lesquels on trouve des filles nues qui attendent de sortir ou des bombes qui attendent d'exploser. Celui-là est bien plus modeste, mais j'aime bien la tarte aux pommes. En général, je me méfie des plats dont je n'identifie pas les ingrédients. Anaïs prétend que c'est un reste de mes tendances animales primaires. Selon elle, je suis une adolescente préhistorique attardée. Allez vous reconstruire avec ça. Au néolithique, il ne devait effectivement pas beaucoup cuisiner avec des additifs chimiques. Et tout le monde se fichait de la chaîne du froid. Mais comment diable faisait-il pour survivre sans chantilly? Aujourd'hui, voilà exactement 27 années qu'Antonin existe à l'air libre. À 27 ans, est-il un jouvenceau chevronné, un homme débutant ou un adulte stagiaire? Est-il encore seulement jeune? La réponse, toute relative, dépendra forcément de celui qui pose la question, à l'aune de ce qu'il aura lui-même vécu. Il semble naturel qu'à son âge, Antonin s'habille désormais seul et sache parfaitement nouer ses lacets. Il peut aussi décider par lui-même quand aller chez le coiffeur. Il est légalement habilité à conduire un véhicule et peut détester ceux qui l'ont arnaqué, en ayant parallèlement connu bien plus de relations amoureuses que moi. Mais pour le reste, qu'est-il censé maîtriser à son âge? Que faut-il avoir réussi pour passer dans la classe supérieure? Cette vie que je découvre d'un œil neuf me laisse perplexe plusieurs fois par jour. Durant les premières années de l'existence d'un individu, on sait exactement quelle aptitude il est supposé acquérir, étape par étape, pour correspondre à un développement standard. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet, histoire de savoir où je me situais moi-même. Mais dès l'adolescence, les critères se barrent en cacahuètes et le fil se perd. Plus aucune étude sérieuse n'est là pour vous dire à quoi vous attendre. Après l'épisode des boutons sur la figure, chacun fait ce qu'il peut, écartelé entre ses envies et ses moyens. Il n'y a aucune bougie sur le gâteau d'Antonin. Ce type d'ornement incendiaire est réservé aux plus jeunes ou aux très vieux. Entre les deux, on se contente de manger sans souffler avant. Je le regrette. Après tout, c'est le premier anniversaire dont je me souviens. Les copines ne fêtent pas le leur. Elles disent que ça leur flanque le cafard. J'aurais été d'autant plus heureuse de voir mon petit frère s'épuiser à éteindre le feu que l'on aurait allumé exprès pour. Quand on y pense, c'est bizarre. Une fois la tarte découpée, vient le temps des cadeaux. Antonin s'en réjouit, mais plus par principe que par réelle envie. Papa et Viviane ont préparé un chèque. Théo et Vanessa lui offrent un coffret renfermant un bon supposé lui permettre d'aller se jeter dans le vide du haut d'un pont. Pauvre gosse. Pour qu'il ne puisse pas se sauver, on m'explique qu'il sera attaché à un élastique et qu'il rebondira dans les airs. C'est horrible. Je n'ai pas osé demander à quelle coutume cela correspondait. Moi, je lui ai trouvé une vraie surprise. Pas un papier qui paye ou qui promet. Je lui offre du bonheur au présent. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis souvenue qu'il en avait eu terriblement envie et je crois qu'il n'en a jamais possédé. Bon anniversaire, Antonin! Il saisit le paquet, le soupèse et le secoue légèrement pour en évaluer le contenu. Je m'en fiche, ça ne casse pas. Intrigué, il déballe et se fige lorsqu'il découvre la boîte sous le joli papier multicolore. Je suis contente de mon effet. C'est vrai qu'il est beau, ce bateau de pompier avec tous ses équipements. Plus de 25 accessoires, dont une pompe, qui projette vraiment de l'eau. Il est aussi livré avec 3 personnages articulés, dont les mains peuvent tenir des outils. Mon petit frère sourit. Il est surpris, mais plus important encore, je crois qu'il est heureux. Les autres ont des murmures variés allant de l'étonnement à une pointe de jalousie. Antonin se lève et vient m'embrasser. Je suis fière d'avoir réussi à lui faire plaisir. Il va pouvoir jouer dans son bain. Il n'y a que toi pour trouver ce genre d'idée, Laura. C'est excellent. Voilà longtemps que je n'avais pas reçu de jouets. Pendant que Vanessa sert le café, Théo et Antonin, tout en évoquant leurs problèmes professionnels, joue avec le bateau. Mon père s'est même emparé de l'un des bonhommes et s'amuse à le faire grimper le long d'une bouteille, pendant qu'un autre est en embuscade derrière le sucrier. Je crois qu'il le fait sans même s'en rendre compte. Le temps passe. J'écoute. J'ai l'impression que le bateau rouge était le seul élément qui ne répondait pas à des codes préétablis. Papa et Vivienne sont repartis en fin d'après-midi. Je suis restée pour aider à ranger. Je ne le regrette pas car c'est à ce moment-là que j'ai pu poser la seule question vraiment importante de cette réunion familiale, trop tiède pour moi. On a toujours mieux à faire que de changer les assiettes en parlant des substances chimiques qui grattent.